Voilà, et on reprend l'antenne, toujours à Moissac, au salon des vins et des terroirs. Non, des produits régionaux. Ce n'est pas des produits des terroirs, Aurélien. Mais bon, c'est l'un ou c'est l'autre. Tout va bien. En tout cas, on est en compagnie de Jean-Pierre Venture, qui est vigneron pas très loin de Montpellier, derrière, dans les terres, sur le Mas de la Serranne, un vin donc des terrasses du Larzac.
Appellation que j'ai l'honneur de présider 9 ans et dont j'en étais le premier président.
D'accord. Et alors, Jean-Pierre Venture, vous êtes vigneron aujourd'hui, mais vous n'avez pas été toute votre vie vigneron.
Non.
Vous avez été par contre moissaguer quelques temps.
Castelsarrasinois.
Aïe, c'est pas pareil.
Mais on a un garçon qui est moissaguer, qui bon. Est né ici.
Et vous avez été le directeur de l'usine Brossard.
Qui est toujours présente à Castelsarrasin, qui fabrique des gâteaux de très haut de gamme et qui a été racheté il n'y a pas très longtemps par un groupe japonais qui fabrique des macarons.
Voilà, et qui est un pourvoyeur d'emplois hein, dans
voilà.
la région, qui
c'est
est
le premier, c'était le premier employeur de Castelsarrasin. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de mes anciens employés qui m'ont dit qu'ils étaient toujours 150. Donc c'était D'accord. une grosse entreprise qui est toujours importante pour la région.
Moi je sais quand on était jeune, on disait tiens peut-être ça faisait partie des boulots qu'on pouvait ouais. faire quand on rentrait dans la vie active, on pouvait aller bon bien sûr bosser aux fruits dans la région voilà. moissagaise, mais aussi on pouvait aller à Brossard voilà. travailler de nuit par exemple,
Exactement.
Des trucs comme ça. Et on était content quand on était jeune parce que du coup ça payait plus, c'est tout
et
ça.
Quoi. Et la caractéristique de cette usine, c'est que nous faisions 40% du chiffre d'affaires sur les 4 derniers mois de l'année. Et on triplait le personnel sur la fin d'année, beaucoup ouais. d'intérimaires,
c'est
et
ça.
Donc une ambiance très particulière où tout le monde avait un niveau de formation élevé pour pouvoir encadrer tous ces nouveaux employés.
Alors, vous vous êtes mis sur le tard à faire du vin. Quelle idée de faire un vignoble ensuite Alors, là-bas moi, sur les terrasses du Larzac.
Voilà, moi je suis montpelliérain de souche de plusieurs générations, donc j'avais envie de retourner dans mon pays natal et je n'avais pas envie de recommencer dans l'industrie. J'avais acquis ce que je souhaitais lors de mes études, en tant que directeur d'usine, c'était un beau métier, et avec des beaux résultats dans cette usine, donc je n'avais pas envie de renouveler une expérience qui aurait pu être moins agréable. Donc j'ai préféré changer de métier, je suis retourné à l'école à 43 ans, j'ai fait l'école supérieure d'agronomie de Montpellier, avec des jeunes de 23 ans, j'avais l'âge des profs qui sont devenus mes amis, et je me suis lancé en 98, il y a 22 ans, avec 5 petits hectares pour commencer, et nous en sommes aujourd'hui à 17 hectares. En agriculture biologique.
Bah dites donc, alors si mes calculs sont bons, vous aviez 43 ans il y a 22 ans, vous ne les faites pas
ouais,
sous votre chapeau Indiana Jones, là on verra les photos peut-être sur Internet, mais ouais, ça conserve
voilà.
le vin.
Oui, voilà, ça conserve bien.
Hein, faites un peu de sport peut-être aussi.
Oui, je fais du tennis, ouais.
Ouais,
mais la vigne c'est un vrai sport, la vigne.
Et la vigne c'est un vrai sport.
Oui.
Racontez-moi le Mas de la Serranne, c'est grand.
Alors,
c'est...
le Mas de la Serranne, c'est sur les coteaux d'Agnane, qui est un vignoble réputé dans la région. C'est un village le plus connu du Languedoc, puisqu'on a eu les premiers grands vins du Languedoc qui ont été démarrés à Agnane par le domaine d'Omas Gassac. Et donc, c'est un terroir réputé. Et nous avons créé un vignoble sur ces belles terres avec un point de vue magnifique sur l'appellation Terrasse du Larzac. Et on a grossi, dans le respect de l'environnement, on a acquis des parcelles avec beaucoup de nature autour. Et donc l'évidence de l'agriculture biologique.
D'accord. Oui, ça, une évidence pour vous.
C'est pas arrivé tout de suite. Hein. Mais peut-être c'est parce que les professeurs de l'agro de Montpellier étaient très cartésiens. Et le bio, à l'époque, en 98, n'était pas encore leur fondamentaux. Et donc, j'y suis venu assez rapidement. Et en 2007, on a commencé à passer en bio.
On en parlait tout à l'heure avec un autre vigneron qui, pareil, de génération en génération, ont travaillé de façon, comment on dit
conventionnelle.
Conventionnelle.
Oui.
Et il y a eu ce basculement. Il a été compliqué pour vous ou...
Non, pas tellement.
L'organisation, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'organisation de d'enlever l'herbe entre les vignes.
C'est ça le plus difficile.
Ouais,
c'est
ouais.
le plus difficile. En bio, la protection des vignes, bon, il y a quelques des accidents parfois, mais le plus dur et le plus long et le plus coûteux, c'est la lutte contre l'herbe. Bon, il y a des vignerons bio qui laissent l'herbe envahir les vignes, mais ce n'est pas forcément bien parce que la concurrence est trop importante. Donc, quand on s'attache à avoir des vignes correctes, le travail de l'herbe nous oblige à labourer avec un tracteur qui est quasiment dédié à cette fonction-là, une charrue coûteuse qui travaille en labour entre les pieds. Donc, c'est vraiment la partie la plus difficile.
On ne peut pas mettre des moutons.
Si.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne pourrait-on pas mettre des moutons et hop.
Il y en a qui sont venus cette année chez nous. au printemps. Il faut le prendre avant que les bourgeons ne sortent, parce qu'autrement, ils vous tondent de la vigne. Mais ça vous évite de faire un labour. Et en même temps, ça vous donne de l'engrais dans les vignes, donc c'est très intéressant.
Parce que souvent, on dit aussi, justement, quand on est un peu dans l'agriculture bio, que labourer, ça casse les terres, et donc ça empêche un peu toute la faune qui est là-dessous de vivre correctement son cours.
Actuellement, il y a des nouveaux courants de pensée qui disent qu'il faut ne plus labourer. Mais c'est pas sûr que ce soit la bonne méthode, parce que dès que la concurrence est importante dans des terres sèches, comme dans le sel du Languedoc, on va à la catastrophe. Nous, on arrive à avoir des rendements corrects avec des labours. Pas partout. Il y a des vignes que je laisse enherber parce que je sais qu'elles vont pouvoir le supporter. Mais ça se réfléchit. Donc, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'il faut s'adapter en permanence.
D'accord.
Toujours réfléchir, toujours se projeter. Voilà.
C'est un dialogue avec la nature. Alors, qu'est-ce qu'on déguste ?
Non, là, vous dégustez un Terrasse du Larzac 2017, cuvée Antonin Louis, qui est la cuvée la plus puissante, qui a été... Les deux années précédentes, médaillé d'or au challenge millésime bio de Montpellier.
Aurélien, il rigole derrière parce qu'effectivement, ouais, c'est puissant.
Voilà. Donc, beaucoup de Syrah dans cet assemblage. Et la particularité aussi, c'est que j'introduis dans cette cuvée un cépage que j'ai remis au goût du jour, qui est le Morastel. Et je travaille beaucoup sur cette problématique d'adaptation au réchauffement climatique depuis 15 ans. Et je suis un peu pionnier dans le Languedoc, avec des cépages oubliés. Et l'année dernière, j'ai planté en 2018 une parcelle de 9 cépages. Sur les conseils des profs de l'agro qui étaient mes profs de Montpellier. Et on a planté des cépages oubliés de l'appellation et des cépages grecs et italiens qui sont déjà adaptés au réchauffement climatique venant du sud avec plus de soleil et moins d'eau.
C'est ça, donc on va de plus en plus retrouver des cépages du sud
monter.
Quoi.
Comme la Syrah qui compose le Sauvignon à 50%, maintenant j'ai appris qu'ils en plantaient en Alsace et à Bordeaux. Donc peut-être que chez nous, bientôt, elle va être trop précoce, d'où la place aux cépages anciens, tardifs et du sud.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que le gamay va disparaître.
Oh, il n'y en a jamais eu chez nous.
Je blague, évidemment, en période de Beaujolais nouveau. On ne peut rien dire sur le gamay.
Mais c'est bon, le gamay. Le Beaujolais, c'est une super chose. Hein.
Non, mais en plus, dans le coin, il y en a. On va faire un qu'est-ce qu'on déguste sur CFM Radio dans pas très très longtemps, au domaine de Gabachou, dans les vins des coteaux du Quercy. Et ils ont planté du gamay.
Oui, donc, mais c'est un cépage local.
Voilà,
ouais, donc, tout à fait.
Voilà. Bon, eh ben écoutez, c'est vrai que ça, c'est puissant. Hein. Ça,
oui,
c'est super puissant. C'est alcoolisé, voilà,
c'est
évidemment, parce que c'est super voilà. Ensoleillé.
Les tanins sont très fondus et c'est une cuvée qui a beaucoup de succès par cette complexité. Au nez, on a un vin un petit peu sauvage, un peu minéral. Et quand on le embouche, on est étonné par la finesse des tanins.
Bon, j'imagine que vous êtes content du salon des vins de Moissac.
Ah oui, je retrouve mes anciens collègues, les professeurs de mes enfants, les maîtresses, tout à l'heure la professeure de musique. Donc c'est un plaisir, je suis chez moi ici.
Bon. Et c'est aussi bon pour les affaires ?
Oui, mes vins plaisent bien, donc il n'y a pas de souci.
Bon. Merci beaucoup, Jean-Pierre Venture.
Merci à vous.
À la vôtre.
Chin.
Santé. Et longue vie au Salon des vins de Moissac qui fête ses 20 ans cette année.
Tout à fait.
Et qu'on espère voir encore durer très très longtemps.
On y reviendra.
Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes avec Jacqueline Guillama et Marie Monfiquet pour un bilan de cette première journée. Ouais, c'est compliqué. Elle se moque de moi de loin là. Mais c'est compliqué d'arriver à la fin de la journée, avoir fait autant de dégustations. Bon. Il faut finir le verre en plus. À tout à l'heure.